France Inter.
Aujourd'hui dans l'affaire sensible, l'affaire Fiona, mort d'une fillette de 5 ans. Le 12 mai 2013, à Clermont-Ferrand, une mère paniquée donne l'alerte. Sa fille, Fiona, a disparu dans un parc de la ville alors qu'elle faisait une sieste. Pendant plusieurs jours, policiers et habitants cherchent l'enfant qui reste introuvable. Une disparition qui émeut la France entière. 4 mois plus tard, la mère, Cécile Bourgeon, et son compagnon, Berkane Maclouf, sont arrêtés et passent aux aveux. Fiona n'a pas disparu dans le parc, elle est morte dans son lit. Comment ? Probablement par des coups, dont l'un et l'autre des parents se renvoient à la responsabilité. 4 procès s'enchaînent pour juger ce huis clos familial sur fond de maltraitance infantile. 12 ans plus tard, le corps de la petite Fiona n'a toujours pas été retrouvé et on ne sait toujours pas quelles ont été les circonstances exactes de sa mort, ni même le jour. En l'absence d'une dépouille, les questions qui se posent dès lors sont légion, et notamment celle-ci. Entre la mère et le beau-père de Fiona, personnalité violente et toxicomane, qui a porté le coup fatal ? Notre invité aujourd'hui, Dali Farah, autrice du livre « Retrouver Fiona », livre publié chez Grasset. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Siam Spencer, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donante, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
12 mai 2013, 18h45. Cécile Bourgeon, 25 ans, entre dans le commissariat de police de Clermont-Ferrand. Sa fille Fiona, 5 ans, a disparu. Aux enquêteurs, elle explique, enceinte de 6 mois, elle s'est endormie dans le parc de Montjuset, laissant ses deux filles sans surveillance une vingtaine de minutes. À son réveil, Fiona, son aînée, n'est plus là. Alors elle l'appelle, la cherche pendant près de 45 minutes avant d'alerter la police. Rapidement, après le signalement de Cécile Bourgeon, on s'active pour tenter de retrouver la petite fille, bien sûr. Dès 20h, le préfet et le procureur de la République se rendent au parc. Un hélicoptère survole Montjuset à très basse altitude. Les appels au standard du journal local La Montagne se multiplient. Les riverains sont en alerte. Quelque chose se passe à Clermont-Ferrand. Aux abords du parc, la mère est entendue par les policiers dans une ambulance. « Attention, elle est confuse », glisse l'un d'eux au procureur de la République. Aux enquêteurs, en effet, elle raconte le cours de la journée. La matinée au marché aux puces des Salins, le repas, la sieste jusqu'à 16h, puis à 17h30, le parc et sa sieste inopinée dans l'herbe. 2 témoins affirment avoir vu la petite fille à Montjuset aux alentours de 17h30, corroborant ainsi la version de Cécile Bourgeon. Les recherches sont interrompues tard dans la soirée et reprennent dès le lendemain matin. Le parc est bouclé, un périmètre de sécurité est installé. Dans Clermont-Ferrand, la nouvelle se répand et surtout, elle émeut, comme en témoigne ce reportage d'Olivier Vidal du 13 mai 2013.
Les 26 hectares du parc Montjuset ont été fouillés de fond en comble. Une centaine de personnes, des militaires du 92e régiment d'infanterie, basé à Clermont, des policiers, des gendarmes, un hélicoptère équipé d'une caméra thermique a même survolé les lieux sans succès. De nombreux Clermontois ont eux aussi participé aux recherches toute cette journée par solidarité. Samuel est maman d'un petit garçon de 5 ans.
Bon, on a fouillé, on a fait tous les soubassements, mais on se doute bien que déjà le 92 et la gendarmerie et la police l'ont déjà fait. Mais bon, on se dit peut-être qu'elle a peur et qu'avec des voix de filles, ça va peut-être mieux l'aider, on va dire. Et puis voilà, quoi, essayer de faire ce qu'on peut pour aider la maman, parce que ça ne doit pas être facile.
Ce parc est très fréquenté le dimanche, notamment à la belle saison. Laura habite à 2 pas et elle a une fille de 5 ans.
Ça fait très peur quand on sait que c'est proche de chez nous. Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'il ne faut pas quitter un œil notre enfant, en fait, hein, c'est ça. Parce qu'il suffit de 2 secondes pour que l'enfant il disparaisse. Hein.
La police a lancé un appel à témoins. Aucune piste pour l'instant n'est écartée par les enquêteurs.
On distribue alors des affiches partout dans la ville avec l'aide de nombreux volontaires. On peut y lire. Avis de recherche. Fiona, 5 ans, cheveux blancs en carré long, yeux bleus vert clair, vêtue d'un survêtement noir Hello Kitty, d'un t-shirt blanc et de tennis noir. Vive, bon langage pour son âge, sait dire son identité, espiègle, sociable, s'exprime sans accent. Au milieu de l'affiche trône des photos de la fillette, petite joue potelée, sourire adorable, une enfant quoi. Les jours passent et Fiona est toujours portée disparue. Dans la semaine, une reconstitution est organisée. Cécile Bourgeon arrive, pâle et mou pleureuse. Elle raconte, retrace encore une fois l'enchaînement des faits, la sieste, la fillette disparue. Lorsqu'elle s'adresse à la presse le 16 mai 2013, c'est en véritable Mater Dolorosa. De petites mèches blondes volent autour de son visage de mère désespérée.
Tous les Clermontois, tous ceux qui peuvent nous aider, c'est vraiment un appel au secours. Et puis, ben, voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Donc, qu'on a vraiment besoin d'aide, quoi. N'importe qui voit Fiona, n'importe qui a Fiona, ben, voilà, qui nous la ramène, c'est tout.
Dès lors, la disparition n'émeut plus seulement Clermont-Ferrand, mais la France entière. Et la presse rue sur cette disparition de petite fille. Au fil des articles, on en apprend un peu plus sur la famille recomposée de Fiona. Cécile Bourgeon et ses deux filles vivent depuis plusieurs mois avec un certain Berkane Maclouf, le désormais beau-père des enfants. Devant la barre d'immeubles du quartier populaire Goncourt, les journalistes s'entassent à l'affût. Malgré les appels à l'aide et l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration, les recherches s'arrêtent au bout d'une semaine. Et on entre dans le temps long de l'enquête. Temps pendant lequel plusieurs pistes sont explorées, notamment celle d'un ancien compagnon de Cécile Bourgeon contre lequel elle a porté plainte un an plus tôt pour viol et séquestration. L'homme fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen et aurait menacé, selon la mère, d'enlever l'enfant. Dans le même temps, le père biologique de Fiona, Nicolas Chafoulet, écarté de tout soupçon par son agenda, se constitue partie civile. 3 mois s'écoulent, 3 mois sans rien. L'enquête patine. Mais à la surprise générale, le couple Bourgeon-Maclouf déménage avec la petite sœur de Fiona. Cap sur Perpignan, à 450 km de Clermont-Ferrand. Ils s'installent dans le nord de la ville, résidence cité-quartier populaire El Vives. Cécile Bourgeon veut se rapprocher de sa mère, qui y vit. Et puis, le sud, le soleil, la Méditerranée, à quelques kilomètres, la nouvelle vie loin des galères, c'est leur rêve à Cécile et Berkane. Ce qu'on retient surtout, c'est que le couple est parti loin de Clermont, alors que leur fille n'est même pas retrouvée. Et dans le nouvel appartement, pas de chambre pour Fiona. Non, c'est comme si, dans leur esprit, elle était déjà morte. Qu'ils avaient intégré cette idée-là, ce qui paraît incompréhensible, voire suspect aux yeux du père biologique de Fiona, Nicolas Chafoulet. En août, Cécile Bourgeon accouche d'un petit garçon. Souvenez-vous, c'est la fatigue de sa grossesse en cours qui l'a fait s'endormir dans l'herbe le jour où Fiona a disparu. Mais le 24 septembre 2013, surprise, Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf sont arrêtés et placés en garde à vue. En réalité, cela fait des semaines, des mois même, que la police prépare minutieusement ces arrestations. Le couple, mis sous écoute, est rapidement soupçonné. Parce que des détails ne collent pas. D'abord, le legging blanc que portait la mère après s'être soi-disant endormie dans l'herbe humide du parc Montjusé. Lorsqu'elle entre dans le commissariat, le vêtement en question est immaculé, pas une tache. Premier soupçon. Mais ce qui met la puce à l'oreille des enquêteurs, ce sont surtout des recherches antérieures à la disparition de Fiona effectuées sur l'ordinateur familial. Ils trouvent dans l'historique de navigation du PC une trace du samedi 11 mai à 20h54, la veille de la disparition de la petite Fiona. Cette recherche fait état de consultations d'articles de presse à propos de Samia et Aïcha disparus dans un parc de Marseille. Et il y en a d'autres, nombreuses et non datées. Au sujet de John Bennett Ramsey, par exemple, soupçonné d'avoir assassiné sa fille de 6 ans, ou encore sur Tiffen Tatton, une enfant de 5 ans, victime de maltraitance. Une accumulation de petits éléments récoltés pendant l'enquête qui suffisent à persuader la police que la petite n'a pas été enlevée. Non. La disparition de Fiona n'est qu'un simulacre pour cacher une réalité intrafamiliale plus perverse encore. Et impossible d'arrêter Cécile Bourgeon dans l'immédiat, non. Il faut attendre qu'elle accouche. Comme l'explique Marc Fernandez, l'un des responsables policiers du département de l'époque, dans le documentaire Fiona, une affaire hors norme du journal La Montagne.
On a attendu qu'elle ne soit plus enceinte parce qu'on savait qu'on allait se heurter à des mensonges et à un peu de, je le mets entre guillemets, de cinéma. 6 mois de grossesse, on la place en garde à vue et évidemment, elle va faire un malaise et là, le médecin va décider de son hospitalisation, on ne pourra pas continuer.
Les heures de garde à vue s'enchaînent et Cécile Bourgeon continue dans les premiers temps de raconter son histoire de sieste dans l'herbe. Ce n'est que lorsque la 4e audition débute qu'elle passe aux aveux. Et c'est alors une toute autre version que déroule la mère Fiona. Dans celle-ci, les faits ont lieu le 11 au soir. Fiona est agitée, elle ne veut pas dormir. Berkane est avec elle dans la chambre. Cécile entend une claque, la petite hurle. La mère écarte son compagnon, tandis qu'un bleu se forme sur le visage de la petite. Cécile Bourgeon raconte alors l'avoir soignée, étalée une pommade à l'arnica sur le bleu et l'avoir couchée. Le lendemain matin, elle est réveillée par son compagnon qui lui dit que la petite est froide. Ils comprennent qu'elle est morte. Toujours selon la mère, Fiona a alors été lavée et mise nue dans un sac de sport. Puis le couple a pris la route, direction le lac d'Edat, à 35 km de Clermont-Ferrand. Cécile conduit, Berkane n'a pas le permis. Sur la banquette arrière, la sœur de Fiona, âgée de 2 ans, assiste à toute la scène. En chemin, ils trouvent une pelle qui se casse, la terre est trop dure. Ils réussissent tout de même à creuser un semblant de trou et y déposent Fiona. Gardé à vue dans une autre salle, Berkane lui est agressif. Il signe les procès-verbaux de l'interrogatoire en écrivant en lettres majuscules « C'est une honte ». Mais lorsqu'on l'informe des aveux de Cécile, là il perd toute consistance et raconte alors sans émotion sa version à lui. Une fessée le soir, puis dans la nuit Fiona qui se lève et qui vomit, il la recouche. Au réveil, il découvre l'enfant inanimé dans son vomi. Puis c'est la douche, le sac et le lac des dates. Jusque-là, les parents donnent la même version. Le lendemain, le procureur s'adresse à la presse et l'affaire est de retour dans tous les journaux et sur toutes les chaînes de radio et de télé, comme ici sur France 2.
La journée d'hier aura donc été pleine de rebondissements dans l'affaire de Fiona. Après 3 heures d'audition, la mise en examen de Cécile Bourgeon, la mère, a été requalifiée de coup mortel aggravé, suite aux nouvelles accusations portées par son concubin.
Nous sommes dans un huis clos familial. Seuls les 2 adultes qui étaient présents à ce moment-là peuvent nous dire ce qui s'est exactement passé. C'est la raison pour laquelle leurs déclarations ont une importance capitale et c'est la raison pour laquelle ce sont leurs déclarations qui nous ont permis et qui ont été utilisées pour fonder les mises en examen qui leur ont été notifiées.
Le procureur a révélé également qu'une semaine avant sa disparition, la petite fille portait déjà un hématome sur la tempe gauche. Elle serait même sortie avec un bandeau sur la tête pour cacher le bleu. La mère nie les faits. Son avocat va demander l'annulation de cette nouvelle mise en examen. Quant à Fiona, son corps n'a toujours pas été retrouvé.
Pour lever le doute sur la cause de la mort de Fiona, il faut d'abord retrouver le corps. Condition incontournable. Cécile Bourgeon est donc emmenée au lac d'Eda. Malgré son apparente coopération, on ne retrouve pas la dépouille de la fillette. La Bourgeon, comme l'appelle le père de Fiona, Nicolas Chafoulet, continue de balader tout le monde. Elle explique aux enquêteurs que tout est flou. Comprenez, son intention était de ne jamais revenir, de passer à autre chose. Et puis, ils avaient pris toutes sortes de drogues ce matin-là. Enfin bon, elle ne se souvient pas, c'est le coup bien connu du trou noir. D'ailleurs, c'est l'amnésie collective, pour elle et lui. Les policiers connaissent la musique. Alors, aidé de la brigade cynophile, il continue d'inspecter inlassablement le lac et ses alentours, mais sans succès. Pendant ce temps, le couple continue de s'accuser mutuellement du coup fatal ou de plaider l'accident domestique. Presque 5 mois après la mort de Fiona, Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf sont mis en examen. 3 jours plus tard, une centaine de personnes se rassemblent rue Goncourt devant l'ancien immeuble où vivait la fillette à Clermont-Ferrand. Reportage de France 2, le 29 septembre 2013.
Des fleurs, des peluches, des dessins, Au pied de l'immeuble où habitaient la petite Fiona et sa famille, ils sont une centaine à se recueillir cet après-midi, encore traumatisés par l'annonce de la mort de l'enfant.
On vient ici pour lui rendre hommage, quoi, pour lui faire montrer de là-haut qu'on est là et qu'on la soutient jusqu'au bout.
On a du mal à comprendre qu'on ne puisse pas remettre la main sur son corps parce que, pour pouvoir faire le deuil.
Parmi les personnes présentes, beaucoup de mères venues avec leurs enfants.
Sache que nous avons et que nous sommes encore là, car tu es et tu resteras à jamais dans nos cœurs, petite Fiona.
Le rassemblement se déroule dans le calme, mais chez ceux qui avaient participé aux recherches avant les aveux de la mère et de son compagnon, pointe un sentiment de colère.
On a fait des recherches, on s'est mobilisé et tout, et au jour d'aujourd'hui, on apprend qu'ils l'ont tué. C'est inadmissible.
La semaine suivante, le 6 octobre, une marche blanche en mémoire de Fiona rassemble près de 2000 personnes à Clermont-Ferrand. En tête de cortège, Nicolas Chafoulé, le père, pleure sa fille. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la disparition de Fiona.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
En 6 mois, les enquêteurs ont eu le temps d'en savoir plus sur la personnalité du couple. Prenons quelques minutes, nous aussi, pour s'attarder sur la vie et le profil des deux accusés. Car qui sont-ils au juste, cette Cécile Bourgeon et ce Berkan Makhlouf? Commençons par la mère. Cécile Bourgeon naît à Clermont-Ferrand. Encore petite, ses parents se séparent. Lorsqu'elle se rend chez son père, elle est régulièrement battue. Un sale type qui tabasse également ses compagnes. À 17 ans, elle rencontre Nicolas Chafoulé, le père de ses deux premières filles. Cécile a 20 ans quand le couple attend son premier enfant, Fiona. Enceinte, obtention de son CAP agroalimentaire, permis de conduire, tiercé gagnant, dira-t-elle lors d'un de ses procès. Tu parles. C'est en rencontrant Nicolas Chafoulé à cette période-là qu'elle commence à se droguer. Et en mars 2012, ils se séparent. Bien décidée à profiter de sa vie de célibataire, la jeune femme de famille sort souvent pendant que ses filles se gardent toutes seules. Les experts psychologues et son entourage la présentent comme une mère fragile, toxicomane, soumise soit à la drogue, soit à un homme. Un personnage qui s'accroche à tout et donc à n'importe quoi. Un véritable velcro, dira une experte. D'autant qu'elle veut sortir de sa condition sociale, celle d'une mère sujette aux addictions, qui enchaîne des petits boulots et qui vit dans un quartier populaire qui ne lui convient pas. Avec une solide volonté de s'élever, elle refuse d'être un cas social. D'autres portraits tressés lors des procès parlent d'une mère absente, sans affection pour sa fille Fiona. Une personnalité d'une grande froideur. Flou, avec de profondes failles narcissiques que le statut de mère lui permet de remplir. D'une personnalité que le rôle inespéré de femme éplorée devant les médias aurait comblé en recherche perpétuelle d'affection. D'ailleurs, elle multiplie les interviews dans les semaines qui suivent la disparition de la petite fille, s'enfonçant dans son mensonge, comme ici, pour France 3.
Personne ne peut s'imaginer la souffrance et l'atrocité que c'est de se faire enlever un enfant, de vivre sans son enfant, de continuer à essayer de vivre comme ça. Je culpabilise beaucoup, je suis beaucoup dans le sentiment de honte, de mal, parce que voilà, j'ai quand même perdu ma fille, on m'a enlevé ma fille, c'est voilà, et je sais pas. Maintenant, j'ai des doutes sur tout le monde, que ce soit sur le contexte familial, que ce soit sur le contexte, comme je vous ai dit aussi, peut-être enlèvement, kidnapping, je sais pas. Mais justement, c'est ça, de ne pas savoir qui est horrible.
En mai 2012, Cécile Bourgeon est violée par un certain Adèle et dépose plainte le lendemain. Quelques semaines plus tard, elle rencontre Berkane Makhlouf, un homme pervers, narcissique et manipulateur que d'ex-compagnes décrivent comme violent et maladivement jaloux. Son demi-frère en parle, lui, comme une personne de parole, certes, mais surtout paranoïaque et, il faut bien le dire, pas très finaud. Corinne Audouin dressait son portrait pour France Inter lors du premier procès du couple.
La vie de Berkane Makhlouf, 35 ans, visage pâle, profil acéré, c'est une longue dérive entre violence, drogue et délinquance. Il n'a pas connu son père. La violence, il dit l'avoir subie très jeune de la part de son frère aîné. Il m'enfermait à la cave, me frappait dessus et me disait de pas pleurer. Berkane Makhlouf est placé en foyer à 13 ans, abandonne l'école à 16 pour vivre dans des squats. La mémoire lui fait souvent défaut. Il a oublié la date de naissance de son fils ainsi que ses multiples condamnations pour vol, violence, trafic. Le seul point central de sa vie, finalement, c'est la drogue, shit, héroïne, cocaïne, crack, énumère le président. Le crack, ça détruit les neurones, non ? Ouais, ouais, répond Berkane Makhlouf. On n'aurait pas consommé tout ça avec Cécile, on serait peut-être pas là, dit-il. C'était n'importe quoi, les enfants nous voyaient faire.
En tout cas, à l'été 2012, lorsqu'il rencontre Cécile Bourgeon en allant acheter sa cam, justement, c'est le coup de foudre. Ensemble, ils font les 400 coups, version toxicomane. Autrement dit, ils essaient tout. Attention, ils sniffaient juste. Jamais d'injection, se défend Berkane au procès. Parfois, ils amènent les fichiers tonton, un squat où ils s'approvisionnent en drogue. Fiona et sa sœur, Berkane les appelle ses pépettes. Et il est violent, oui, mais oh, jamais avec les enfants. Pourtant, l'instruction amène à penser le contraire. Par exemple, 4 jours avant la mise en scène de la disparition de Fiona, sur les images des caméras de sécurité d'un cinéma qui permet de retrouver la dernière fois où elle a été aperçue vivant, un large bandeau jaune lui en serrait la tête. La guichetière d'un cinéma témoigne. Oui, Fiona avait un énorme hématome sur le visage, caché par le bandeau. Elle n'allait pas bien, cette petite. Alors, elle aurait voulu les suivre, la guichetière, mais pas le temps de travailler. Une chose est certaine, le visage de Fiona n'a pas quitté sa mémoire depuis. Fiona avait bien essayé de parler des violences qu'elle subissait à son père, Nicolas Chafoulet. Elle lui racontait que son nouveau beau-père, Berkane, lui avait fait mal. Alors remonté et prêt à en découdre, Nicolas décide d'aller à la rencontre de celui-ci. Il veut s'expliquer d'homme à homme avec lui. La rencontre tourne court, Berkane refuse que Nicolas revoie ses filles. Hors de lui, le père passe ses nerfs contre un poteau et se fracture le tibia. Il ne reverra jamais sa fille, Fiona. Le 14 novembre 2016, aux Assises de Orion, Nicolas Chafoulet est là, sur le banc des parties civiles, lorsque s'ouvre le premier procès de l'ancien couple Bourgeon-Makhlouf. Il confie aux journalistes ses espoirs pour ce premier procès.
Moi, ce que je veux, c'est savoir ce qui s'est passé. Savoir où est ma fille aussi. On ne sait même pas la date de la mort de ma fille. Et elle n'a toujours pas dit où était le corps. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'obsèques, qu'il n'y a rien eu de fait. Elle est toujours là où elle est. La seule chose qu'elle a su me dire, c'est qu'elle avait réussi à l'enterrer, qu'elle avait fait une prière, et voilà, que c'est pour elle, ça allait.
3 ans se sont écoulés, et lorsque Cécile Bourgeon, en prison depuis son arrestation, arrive aux assises, c'est un choc visuel que racontent toutes les parties. Elle a beaucoup grossi, elle est méconnaissable. Exit la moue enfantine, une large frange blonde délavée masque son front qu'elle retient certains jours en arrière avec une pince. Lui, Berkane, placé à l'isolement en prison, a le visage bouffi également. Il est d'un calme apparent, probablement assommé par la prise d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Face au couple, les parties civiles composées d'associations de protection d'enfance, à l'extérieur, le tribunal, disons, social. Car si après la disparition de Fiona, beaucoup s'étaient mobilisés et émus, ils se sont, avec la même énergie, déchaînés sur la mer lorsqu'elle est passée aux aveux. Et bien sûr, côté vulgate, des insultes, des menaces, des appels à la vindicte populaire inondent la page Facebook dédiée à l'affaire. On demande la peine capitale pour le couple. Bref, on demande n'importe quoi. On peut, on est sur les réseaux, et on déverse haine sous anonymat. Souvent, c'est tellement plus confortable, le miroir Santin. Retour à la justice, la vraie. Après l'arrestation du couple, le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Pierre Sénès, liste les motifs d'inculpation, à commencer par Berkane.
Coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, infraction aggravée par deux circonstances aggravantes, qui est le fait que les coups ont été portés sur une mineure âgée de moins de 15 ans et que la personne qui les a portés est une personne qui exerce une autorité sur la victime. Il s'agit d'une infraction criminelle qui est punie par la loi d'une peine de 30 années de réclusion criminelle. Il lui est également reproché, dans le réquisitoire du parquet, une infraction de non-assistance à personne en danger et un recel ou une dissimulation de cadavre. En ce qui concerne Madame Bourgeon, le parquet vise les infractions de non-assistance à personne en danger, de recel ou de dissimulation de cadavre, de dénonciation d'un crime imaginaire et de destruction ou modification de preuves entravant l'action de la justice.
Lorsque le procès débute, Cécile Bourgeon a 29 ans, Berkane Maclouf 35. Ils encourent tous les deux 30 ans de prison. Ce n'est probablement qu'au moment où les artères se bouchent qu'ils retrouveront la liberté. En tout cas, on n'en est pas là. Mais la salle d'audience est bondée. On fait la queue dès 6h du matin pour espérer assister au débat. Dans le box, les deux accusés n'échangent aucun regard. Berkane raconte la drogue, partout, sur la table de la cuisine, dans la chambre. Cécile Bourgeon, elle, évoque ses tentatives de suicide en prison. Elle parle de sa fille Fiona, qui lui manque. Mais dans les faits, elle reste vague, tout comme Berkane. Qui a frappé l'enfant? Qui a porté le coup fatal? Pas de réponse claire sur cette question pourtant capitale. Au milieu de ces questionnements, un événement vient renforcer le caractère absurde que prend l'audience. Une avocate de la partie civile annonce avoir reçu des photos d'un témoin qui assure savoir où se trouve le corps de la fillette. Un témoin qui n'est en réalité qu'une voyante.
Les réponses lapidaires de Cécile Bourgeon, les trous de mémoire de Berkane Maclouf avaient déjà tendu l'ambiance quand est arrivé le témoignage de cette médium relayé par une avocate des parties civiles. La scène improbable s'est conclue par un évanouissement et n'a permis aucune avancée sur le lieu où se trouverait Fiona. Renaud Portejoie, l'avocat de Cécile Bourgeon.
La cour d'assises a été prise en otage. Lorsqu'un avocat est destinataire d'une information de cet acabit, au bout de 3 ans et demi de procédure, l'avocat se doit d'être prudent, de vérifier qu'on n'est pas face à une information délirante. C'était le cas, nous l'avons tous subi.
C'est globalement la question de la tenue de l'audience qui se pose. Le président aurait-il dû convoquer cette femme sur le champ? Quelques heures de délai auraient suffi pour se rendre compte que la médium avait déjà été entendue 2 fois par la police. L'hystérisation autour de l'affaire Fiona a contaminé la cour d'assises. Tout le monde ici espère pour les jours à venir le retour à plus de sérénité.
Après une semaine de procès, les questions semblent toujours sans réponse. Du couple, on attendait tout, on espère plus grand-chose. Vu les thèses avancées par le duo, il y a de quoi. Et si la petite Fiona, par exemple, avait ingéré de la drogue présente partout dans l'appartement? Explication rapidement réfutée par un toxicologue, jugée improbable, voire grotesque. Sur la base de l'enquête, et n'ayant pas de corps à inspecter, un médecin légiste privilégie, lui, l'hypothèse d'un traumatisme abdominal consécutif à des coups portés au ventre et au thorax. Si c'est le cas, encore une fois, qui a frappé Fiona? Les anciens amoureux continuent de s'accuser l'un et l'autre, affirment chacun ne pas avoir levé la main sur l'enfant. Enfin si, une fessée ou deux, peut-être, mais rien de plus, affirme Berkane. Ils s'occupaient bien des enfants, ils allaient au McDo, ils jouent ensemble. Autrement dit, le mystère reste entier et la cour est agacée. Qui ment? Qui dit la vérité? Qui manipule qui? La tâche des jurés est compliquée. C'est vrai, avec ça, allez-vous forger une intime conviction. Dans ce contexte, le réquisitoire de l'avocat général est sans appel. Le comportement de ce couple, le scénario macabre, la mise en scène, sans que personne ne puisse faire de constatation médico-légale, tout va à l'encontre de la thèse accidentelle. Il n'est pas nécessaire, dit-il, de pouvoir identifier qui a fait quoi. Peu importe si l'un a mis trois coups et l'autre un seul, les deux ne font plus qu'un. Alors il réclame 30 ans de prison. Le 25 novembre 2016, le verdict tombe. 5 ans pour elle, condamné seulement pour non-assistance à personne en danger, 20 ans pour lui. Dans la salle, on hue, on crie. Mais enfin, pourquoi un tel décalage entre les deux peines? C'est incompréhensible pour le public. La mère a menti, elle a couvert, si ce n'est plus. Alors pourquoi seulement 5 ans? Nicolas Chafoul et le père révolté. Pour lui, c'est évident, c'est elle qui est au centre du drame. Le parquet général fait appel. La suite de l'affaire est une succession de procès. Un premier en appel qui devait avoir lieu en juin 2017 est reporté à la demande des avocats de la Défense. Puis en octobre de la même année, il est cette fois-ci interrompu par les avocats de Cécile Bourgeon, offensés par une consoeur qui aurait mis en cause leur intégrité professionnelle. Le vrai procès en appel a lieu 3 mois plus tard aux assises du Puy-en-Velay. Toujours avec cet espoir de savoir ce qui s'est passé exactement pour Fiona. Et de nouveau, on parle du couple et on le laisse parler. Dans le box, les accusés racontent, encore et toujours, la découverte de la petite inanimée dans son vomi, la douche, la voiture, le lac. La fillette se faisait vomir, ça agace Berkane, alors il lui interdit de se relever. Bon, d'accord. Mais qui a esséné les coups, bon sang ? Une experte psychiatre avance la théorie d'une enfant globalement gênante. Oui, Fiona pose beaucoup de questions. Fiona est là, entre les deux, dans une relation de couple fusionnelle à la complicité psychopathologique. Fiona les rappelle à la réalité et les empêche de s'évader dans les vapeurs de leur cam. Et puis Fiona, c'est l'enfant de l'autre, Nicolas Chafoulé. D'ailleurs, regardez, elle a ses yeux. Bon, les débats tournent en rond. En trame de fond, c'est l'impression d'un naufrage, d'un fiasco judiciaire qui domine dans une affaire où sans corps et sans aveu, on ne peut émettre que des hypothèses sur la mort de Fiona. Pour ce procès, l'avocat général requiert encore une fois 30 ans de prison, pour elle et pour lui. Ce sera finalement 20 pour les deux. Autrement dit, 15 de plus pour la mère, qui n'en avait pris que 5 en première instance. Mauvaise pioche. Mais coup de théâtre, le 20 février 2019, Cécile Bourgeon est libérée.
C'est peu après 20h hier soir que Cécile Bourgeon a quitté la prison de Lyon-Corbat, où sa mère et son beau-père étaient venus la chercher. Un départ pour leur domicile à Perpignan, sous les sifflements de quelques détenus indignés par cette libération. Si Cécile Bourgeon est libre, c'est parce que la Cour de cassation a jugé recevables les irrégularités procédurales relevées par ses avocats lors de son procès en appel. Sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle se retrouve ainsi annulée.
On revient à la situation du premier procès. Elle avait été acquittée pour les coups mortels et condamnée à une peine de 5 années d'emprisonnement pour non-assistance à personne en danger. Cette peine de 5 années, elle l'a purgée depuis septembre 2018. Il est normal qu'elle soit libérée parce qu'elle ne pouvait pas être détenue plus que ces 5 années.
Cécile Bourgeon, qui a purgé sa première peine, est donc libre. Et pendant l'année et demie qui s'écoule avant le dernier procès en appel, eh bien la vie continue pour la mère de famille sortie de prison. Elle tombe enceinte d'un nouveau compagnon et accouche donc d'un nouvel enfant. Une petite fille, encore. Ce qui ne manque pas de choquer l'opinion publique, mais surtout le père de Fiona, Nicolas Chafoulé.
Depuis le début, c'est comme ça. Ça fait 6 ans que c'est le même cirque. Elle s'en sort toujours à peu près correctement, donc elle est libre. Moi, ma fille, elle n'est pas libre.
Finalement, le 1er décembre 2020, aux Assises de Lyon, cette fois, le dernier procès de l'affaire Fiona débute, c'est le 4e. Et là, même en rengaine, 2 semaines à tourner en rond, qui donne un sentiment de frustration sans précédent à la Cour. L'avocat général tranche. Cécile Bourgeon et Berkane Maclouf ont exercé tous deux des maltraitances. Ils ont tué cet enfant. Le verdict tombe. 20 ans de prison pour Cécile Bourgeon. Ils sont confirmés, tout comme Berkane Maclouf, enfin presque 18 ans. Toute petite différence, mais symbolique. Dans son livre, Retrouver Fiona, l'écrivaine Nalifala résume ainsi les jurés sont coincés, c'est l'occasion d'enfin coffrer les Thénardier. Aujourd'hui, 14 ans après les faits, le corps de Fiona n'a toujours pas été retrouvé et une théorie reste en suspens. Un témoin aurait vu Berkane jeter un gros sac aux ordures. Le corps de la fillette, vulgairement jeté à la poubelle. Une piste qui ne pourra jamais être vérifiée. Lorsque les enquêteurs, en effet, décident de s'y attarder, les poubelles de ce début de mois de mai ont déjà été incinérées au centre de tri et le mystère reste donc entier autour des derniers jours de la petite fille. Dans cette affaire, les procès à répétition, la personnalité de la mère et du beau-père ont presque réussi à faire oublier le visage de la petite fille. Évoquons alors, une dernière fois pour cette fin de récit, la photo choisie pour la marche blanche en hommage à Fiona. On y voit la petite fille avec un air de malice. Deux couettes dégagent son visage et tirent ses cheveux blonds foncés en arrière. Des pommettes rebondies encadrent son large sourire. Elle n'aura vécu que 5 ans.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la disparition de Fiona, notre invitée Dali Farah. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice du livre « Retrouver Fiona », livre publié chez Grasset, et vous exprimez en direct des studios d'ici Pays d'Auvergne, que nous remercions pour leur accueil. Dans cette affaire, qui a ému tous les Clermontois, c'est bien la mère qui semble le plus susciter toutes les interrogations. Ça a été aussi votre sentiment à l'époque ?
Oui, tout à fait. Cécile Bourgeon, en fait, va au départ faire converger autour de sa figure beaucoup d'émotions, d'empathie, de compassion. En miroir inversé, 4 mois plus tard, ce sont des torrents de haine qui sont déversés sur elle. Et au cours de la procédure, elle va perturber la plupart des intervenants parce que, justement, elle a une personnalité complexe.
Elle ment aussi, donc c'est un caractère un peu pervers qu'elle renvoie.
En fait, Cécile Bourgeon travaille sa vie en fait comme une fable, et une fable qui lui est favorable. Deux choses sont importantes pour elle, c'est être victime et être une mère. Le problème, c'est que le réel ne va pas dans ce sens-là. Ça trouble beaucoup les différentes parties, et elle insupporte aussi parce que c'est une amoureuse, une femme qui ne pleure pas, qui a une vitalité hors norme. Elle ne rentre dans aucune case, c'est une prolo d'accord mais une prolo battante, une victime de viol d'accord mais une victime violente, une soumise parfois, mais une soumise de poigne. En fait, cette figure oxymorique perturbe énormément et ça la rend insupportable et ingérable, même pour ses conseils parfois.
Alors passons à ce Maclouf, le beau-père, qui lui, dans une sorte de second plan, c'est juste une impression véhiculée par les articles de presse.
En fait, c'est assez troublant. Il ne faut pas oublier qu'au début, enfin lors de l'arrestation, donc en septembre, 4 mois après le signalement de la disparition, la fausse disparition, Cécile Bourgeon est couverte de bleu. Berkane Maclouf déploie une brutalité que je dirais typique, hein, désolé entre guillemets, il est le cliché du prolo maghrébin toxicomane. Lui, son affaire, en fait, elle est déjà classée. En plus, en garde à vue, il est odieux, il est en manque, il se comporte comme on s'attend à ce qu'il se comporte, ce qui fait que très vite, voilà, on a résolu l'affaire avec lui. Et c'est au cours des procès qu'on se rend compte qu'il n'est pas du tout le super bad boss qu'on attendait, et il est cachetonné, il est comme oublié, il s'enfonce dans le box, et Cécile Bourgeon, qui était donc la faible sociale, apparaît au contraire comme une femme puissante et intelligente.
Alors, il paraît clair, vous allez me le confirmer ou me l'infirmer, je ne sais pas, que la toxicomanie du couple Bourgeon-Maclouf est un point central dans cette affaire.
Oui, tout à fait. On pense toujours que la drogue est un choix de délinquant. En fait, c'est un non-choix de désespoir et d'addiction pour ce couple. D'ailleurs, un des prévenus va l'expliquer, le frère dont vous avez parlé dans votre récit, il explique, la drogue, on te donne, et après tu fais tout pour en avoir. Moi, avec ironie, je dis que ça marche beaucoup moins bien que l'orthographe et les mathématiques. Donc, il y a une forme d'éducation, comme ça, à la drogue. Et la toxicomanie vient jouer un rôle majeur, mais c'est peut-être pas le point central. Le point central, et vous en avez parlé aussi, ça peut surprendre, c'est leur amour. Ces deux-là se sont trouvés. Leurs deux personnalités convergent avec intensité et la drogue vient comme sublimer en fait cette rencontre. Et cette rencontre va converger vers l'horreur et les transformer en bourreaux.
Que dire d'une autre victime, le père biologique de Fiona, le père tout court d'ailleurs, Nicolas Chafoulet.
Alors, avec Fiona, Nicolas Chafoulet, c'est une victime majeure de toute cette histoire. Il est nié dans sa paternité, il a perdu sa fille, il sera soupçonné, il va subir les mensonges, les procès. Et au fur et à mesure, je me rends compte que c'est le seul père de l'histoire. On écoute les différentes trajectoires, et lui, c'est un père. Le seul qui trouve bonheur dans sa paternité, qui veut protéger ses filles. Et il est inconsolable, il n'y a pas de sépulture pour Fiona. Et c'est vraiment un homme qui va tout faire, et on ne pourra rien pour lui. On ne peut pas lui rendre sa fille. La justice ne pourra jamais le dédommager de ce qu'il a perdu.
Et pourquoi vous, personnellement, vous êtes autrice, écrivaine, vous vous êtes penchée sur cette affaire-là ?
Bon, au départ, c'est simple, que je suis clermontoise et j'habite pas loin du parc dont vous avez parlé. Ah, oui. Et j'ai entendu les hélicoptères, qui a fait écho et qui a créé une forme de pressentiment. C'est un peu un réflexe de tout le monde. Dès qu'il y a une inquiétude, on va projeter quelque chose qu'on a déjà vécu. Et au moment du mensonge, les choses se précisent. Et là, il y a une forme de sentiment d'appartenance que j'ai partagé avec d'autres, qui est celui de l'enfance maltraitée, parce que ma propre histoire va faire écho à celle de Fiona.
Et c'était, l'écriture a-t-elle été douloureuse ou libératoire ? Ou les deux ?
En fait, ce livre, je l'écris en parallèle de mes autres livres. Je raconte mon enfance dans mon premier roman. Et ça a été une enquête pour comprendre aussi de quoi est faite la survie. Parce que cette histoire, elle renvoie à toute la société. Je me rends compte, en enquêtant, que Fiona appartient à un charnier d'enfance dévasté. En fait, il n'y a pas des affaires, une affaire par-ci, une affaire par-là. Il y a l'enfance elle-même qui subit des violences systémiques. Et c'est par l'enquête que je le découvre et qui me permet de mieux comprendre ma propre histoire.
Et on ne cesse de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire que les services sociaux ne sont pas performants, mais n'ont pas les moyens et donc ne remplissent pas leur mission ?
Bon, il faut savoir que les services sociaux n'ont pas déjà suffisamment de personnel, pas assez d'éducateurs, donc déjà physiquement. Et puis la loi ne permet pas tout. Ce qui est normal aussi, il est normal que les familles aient leur propre liberté, qu'on puisse pas être invasif dans les familles. Mais il y a surtout, je crois, une forme d'idéologie familiale, à savoir que la famille serait la chose à atteindre à tout prix et à protéger à tout prix. On protège les secrets, on l'a vu avec les affaires d'inceste, on protège le patriarche, on protège en fait la violence parce qu'on en a quand même honte.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Dalí Farah, je rappelle que vous êtes l'autrice du livre « Retrouver Fiona », publié chez Grasset. Alors, on va revenir sur les procès. En gros, il y en a, entre les procès réels, les appels, les procès ajournés, il y en aura eu 4, à tel point que Nicolas Chafoulet, le père de Fiona, a parlé de véritable théâtre. Quelle impression vous en gardez-vous de cette succession de procès ?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu des épisodes particulièrement marquants. Vous avez évoqué celui de la voyante. Il y a eu donc aussi au procès de 2020 l'épisode le matin, pour moi, je pense, qui a fait basculer un petit peu l'opinion et en tout cas qui l'a, disons, influencé. C'est lorsqu'elle va se défendre face à des journalistes, Cécile Bourgeon, et frapper, en fait, dans l'appareil. Elle qui avait, depuis le début, dit qu'elle n'était pas, disons, capable de violence pulsionnelle. Là, elle le prouve devant tout le monde. Elle aussi, elle peut craquer comme tout le monde, en fait, finalement, et donner un coup. Et ce matin-là, c'est le jour de l'anniversaire de sa fille. Et elle ne se souvient pas de la date, elle ne se souvient pas de l'âge de sa fille. Et c'est un moment assez troublant. Donc, il y a des moments comme ça, mais la plupart du temps, c'est quand même ce que vous avez bien noté, que les choses tournent en rond parce qu'elles sont répétitives et que ce que cherche vraiment à connaître le président, à savoir le lieu de sépulture, et les conditions de la mort de la petite fille ne sont pas connues.
Et le comportement de Maclouf, qu'en dire au procès ?
Alors au procès, il est quand même, il est sous camisole chimique en fait.
Oui.
Donc tous les témoignages disent violence, disent brutalité, disent séduction, etc. Mais dans les procès, j'évoque presque un corps légumineux, un corps qui s'endort. Il a des moments, il y a eu son premier éclat la première fois, il va raconter le premier procès, il va raconter la mort, et avec des accents d'authenticité, mais comme c'est pas dans l'ordre, eh bien le président interrompt sa confession. Il y a des moments comme ça. Il y a eu un autre moment troublant que je note dans mon livre aussi, c'est ce moment dans le dernier procès où ils sont tous les deux côte à côte. On a une sorte d'alignement de leurs deux corps, comme si ce pacte serait à jamais, quoi, dans leurs deux corps, complices dans ce qu'ils ont commis et qui a coûté la vie à Fiona.
Vous pensez qu'il y avait encore des sentiments entre les deux à ce moment-là ?
Alors je dirais qu'il y a ce lien un peu terrible, humain, du pire qu'on a commis. Il y a entre eux le lien du pire, le lien de cette nuit où ils commettent, on va dire, l'innommable. Et je crois aussi, et ça c'est ma conviction personnelle, qu'il y a quelque chose qui a eu lieu autour du corps et qui a un tabou encore plus puissant que l'infanticide et qui les relie. Comme si on était reliés par l'horreur. Et je crois que leur mensonge et leur silence, voire leur amnésie, qui serait peut-être pas forcément volontaire, les relie à jamais.
Alors, on a un petit peu insisté dans le récit en disant, mais on veut savoir qui a porté les coups. Et je crois que c'est l'avocat général qui disait, mais est-ce que c'est si important que ça? Comment vous abordez cette question-là, vous? Est-ce que vous pensez que c'est une question fondamentale qu'il faut absolument savoir ou que ça ne change pas grand-chose, finalement?
C'est une, sur plan juridique, c'est essentiel parce que
oui,
c'est
sur plan juridique, de l'accusation. Bien sûr, bien sûr.
Mais ce qui est certain, pour moi, et c'est ce que l'écrivaine peut faire et que peut-être le journaliste ou l'homme de loi ou la femme de loi ne peut pas faire, c'est que moi, je peux enquêter dans les espaces manquants. Vous avez parlé, par exemple, de la semaine précédant la mort de Fiona. J'ai, moi, écrit cet espace-là, la littérature le peut, sous forme de déduction, de construction, avec différentes preuves matérielles. Et puis aussi par rapport à ma propre histoire. Ce qui est certain, c'est que cette petite fille était seule. En témoigne, par exemple, le papier peint de sa chambre. En témoigne comment elle a arraché petit à petit le papier peint du mur. Cette petite fille était seule, elle devait souffrir, elle devait probablement recevoir des coups du compagnon de sa mère, ce qu'on dit beau-père, mais en fait, il ne se connaissait pas de si longtemps que ça. Et puis de sa mère aussi, certainement. C'est surtout cette solitude infinie, probablement aussi l'agonie qu'elle a dû vivre. Désolée de parler de ça, parce que c'est terrifiant aussi d'imaginer. Pour moi, il est effectivement impossible de savoir ce qui s'est passé dans le huis clos, mais les probabilités sont très hautes d'une mort criminelle et qui soit conjointe.
Vous avez raison de parler de Fiona, parce que précisément, je trouve que dans la procédure et dans les échos qu'on en a, on n'en parle pas assez. Ben voilà, vous l'avez fait, c'est très bien. Donc on a dit que beaucoup de Clermontois sont venus assister au procès. Ça veut dire qu'il y a une vraie émotion. Est-ce que votre livre s'est bien vendu? C'est pas une question commerciale. Si c'est bien vendu, c'est que ça a vraiment beaucoup ému, cette affaire.
Ah, je vais être honnête avec vous, pas du tout.
Bon, c'est pas
en
grave.
Fait, le tabou, ouais. Ça a été assez troublant parce que finalement, j'avais une position étrange, comme si enquêter sur un crime en tant qu'écrivaine, finalement, me faisait participer. Ah, au crime. Et donc, il y a eu un écho. Et puis, il y a autour de cette affaire, un dégoût social, un dégoût aussi de cette longévité, de cette chose qu'on comprend pas. Et puis, peut-être une immense culpabilité de la société.
Oui,
parce que, vous savez, quand on se sent coupable, on préfère pas parler de ce qui fâche, comme on dit. Donc non, ça n'a pas été vraiment... là, il est sorti en poche, donc il y aura une seconde vie, j'espère, au moins pour montrer qu'il y a une chaîne de violence. Et que cette chaîne de violence n'est pas une fatalité.
Bien, ce sera le dernier mot. Merci infiniment, Dalí Farah. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la disparition de la petite Fiona. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Céline Guéribi.